Vous écoutez RFI les midis à Paris, 11h en temps universel. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'arrêt de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Elle est suspendue sur décision de Donald Trump, 3 jours après sa vive explication avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. En Ukraine, c'est la consternation. À l'opposé, le Kremlin applaudit l'annonce américaine à suivre dans un instant. Donald Trump, toujours lui, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles taxes imposées aux grands partenaires commerciaux des États-Unis. Les marchés financiers dévissent actuellement, ils redoutent une guerre commerciale mondiale. Dans ce journal également, les derniers développements de l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Un vaste scandale d'agression physique et sexuelle dans un établissement privé du sud-ouest de la France. Donald Trump sur tous les fronts, donc dans l'actualité du jour. Le président américain a mis à exécution sa menace de taxer lourdement les produits des 3 grands partenaires commerciaux des États-Unis, Canada, Mexique et Chine. Il a dans le même temps ordonné l'arrêt au moins provisoire de l'aide militaire américaine à l'Ukraine en guerre contre la Russie. En Ukraine, c'est la consternation. Les Ukrainiens accusent le chef de la Maison-Blanche de faire le jeu de la Russie. Autre réaction, celle de Varsovie. La situation créée par cette suspension est très grave aux yeux du gouvernement polonais. De son côté, et comme on pouvait s'y attendre, la Russie jubile. L'annonce américaine a reçu à Nisaël Jabri un accueil positif à Moscou.
Aucun cri de joie officiel au Kremlin, en tout cas, mais un commentaire extrêmement sobre selon son porte-parole Dimitri Peskov. Si les États-Unis suspendent effectivement leur aide, eh bien ce sera certainement la meilleure contribution possible à la paix. Alors cette paix dont parle Dimitri Peskov, on l'a compris, c'est une paix aux conditions de la Russie, car un autre point dans les exigences du pouvoir russe pourrait aussi être validé par Washington, selon l'agence Reuters. Un plan d'allègement des sanctions décrété après l'invasion de l'Ukraine, ce plan serait en cours de préparation aux États-Unis. Là-dessus, Dimitri Peskov s'est beaucoup plus étendu. Nous n'avons aucune déclaration officielle à ce sujet, a-t-il dit, mais en tout état de cause, notre position à l'égard des sanctions est bien connue. Nous les considérons comme illégales et surtout, pour le porte-parole du Kremlin, toute normalisation des relations bilatérales avec les États-Unis doit passer par l'allègement et la fin, surtout, de ces sanctions. C'est intéressant parce qu'en Russie, jusqu'ici, le Kremlin a toujours affirmé que ces sanctions n'étaient au fond pas un réel problème, mais on commence à en entendre parler. Hier, par exemple, le gouverneur de la région minière du Kouzbass a officiellement déclaré devant son parlement régional que 8 entreprises d'exploitation de charbon de la région avaient suspendu leur travail, avaient cessé de payer les salaires. Tout cela, je cite, en raison de problèmes liés aux sanctions occidentales.
Nisaël Jabri en direct de Moscou. J'ajoute qu'à Bruxelles, la chef de la commission, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe. Il permettra de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense. À suivre, un dossier complet de Daniel Valo dans RFI Midi à 12h30. En France, la mort d'une figure de la droite, Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, un proche de Jacques Chirac. Jean-Louis Debré était le fils de Michel Debré, qui lui était une figure du gaullisme. Il disparaît à l'âge de 80 ans. L'actualité en France est aussi l'affaire Notre-Dame de Bétarame, du nom de cet établissement catholique du Sud-Ouest, au cœur d'un vaste scandale d'agression physique et sexuelle. Pas moins de 150 plaintes déposées contre d'anciens religieux et des surveillants pour des faits commis sur de nombreux élèves entre les années 1950 et 2000. Baptiste Coulon, bonjour.
Ah, bonjour.
Baptiste Coulon du Service France de RFI. La congrégation religieuse qui a longtemps dirigé l'établissement sort de son silence.
Oui, et pour la première fois, elle reconnaît sa responsabilité dans les souffrances vécues par ses enfants. Ils ont été anéantis, admet Laurent Bachot auprès de l'agence France Presse. Ce prêtre est l'un des représentants de la congrégation responsable de la cellule d'écoute. Il a d'ailleurs rencontré 8 victimes depuis l'éclatement de la à l'échelle nationale. Je n'ai pas douté de leurs paroles, assure-t-il, mais il admet qu'il a fallu du temps. Et si la prise de conscience a été douloureuse, dit-il, le prêtre rejette l'idée de violence systémique, limitant ses agissements à quelques personnes déviantes.
La congrégation annonce des mesures à l'égard des victimes.
Et une indemnisation élargie. Jusqu'alors, seules les victimes de violences sexuelles prescrites, commises par des religieux de l'établissement, étaient indemnisées par la congrégation. 19 l'ont déjà été. Des désormais, les victimes de personnes laïques le seront également. Alors, où trouver ces fonds? Eh bien, avec la vente de plusieurs biens immobiliers que possède la congrégation.
Cette congrégation qui annonce aussi, Baptiste, le lancement d'une commission d'enquête indépendante.
Elle entendra cette commission des victimes et membres de la congrégation avec un objectif, identifier les causes de ces violences. On ne connaît pas encore sa composition exacte. On sait en revanche que les travaux de cette commission dureront 6 mois.
Enfin, comment réagissent les victimes?
C'est un premier pas. Voilà ce que dit Alain Esquer, l'un des porte-parole d'un collectif de victimes, à nos confrères de France 3. Cette reconnaissance, il faut le dire, elle était très attendue par les victimes qui dénonçaient jusqu'alors le mutisme de l'institution. Reste qu'à leurs yeux, c'est insuffisant. Il faut plus qu'une simple distribution de chèques et notamment un accompagnement psychologique à la fois systématique et gratuit pour des victimes toujours traumatisées 50 ans après les faits.
Merci Baptiste Coulon. Et dans cette affaire, on rappelle pour finir qu'un ancien surveillant a été inculpé et placé en détention provisoire. Dans le reste de l'actualité, état stable pour le pape François, hospitalisé depuis 10 jours à Rome pour une pneumonie des 2 poumons. Il a dormi toute la nuit et continue de se reposer, mais le pronostic vital reste réservé, a fait savoir ce matin le Vatican. Pâquerettes, jonquilles et autres primes verts sont en fleurs. Cette année encore en France, le printemps est en avance et Dame Nature bourgeonne. Ce qui était autrefois exceptionnel devient la norme. Changement climatique oblige. Illustration dans le sud-ouest où ces 2 dernières semaines, les températures ont été particulièrement douces pour la saison. Les vacanciers ont apprécié, contrairement aux agriculteurs. Reportage en Dordogne de Noémie Leweller.
On voit les premières fleurs s'ouvrir là-haut.
Par cette belle matinée ensoleillée, le vent souffle fort et transporte le parfum fruité des fleurs blanches d'amandier. Elles sont en avance 1 ou 2 semaines et toutes les branches autour d'elles bourgeonnent. Clément Lafoscade possède 300 hectares de culture près d'Issijac, au sud de la Dordogne. Installé depuis 2014, il cultive des céréales et des arbres fruitiers.
Pour l'instant, les pruniers sont pas débourrés, c'est encore dans les clous. C'est une floraison, je pense, vers le 20 mars. Mais à côté de ça, les amandiers sont en train de mettre la fleur. Donc là, c'est un peu plus inquiétant.
Inquiétant parce qu'un bourgeon, une fleur ou un fruit qui sort précocement peut être tué par le gel. Les températures anormalement douces pour la saison pourraient chuter brusquement et ruiner une partie, voire la totalité de la récolte.
Ce week-end, normalement, ils annoncent peut-être une gelée à moins 2, moins 3. Donc du coup, risque de perte de fruits et Donc il va peut-être falloir faire une lutte contre le gel en mettant de la paille et en brûlant des bottes de paille. Ouais.
Brûler des bottes de paille ou de foin, asperger les cultures d'eau à température ambiante, installer des brûlots, des braseros, des guirlandes infrarouges, les moyens de lutte contre le gel ne manquent pas. Autre culture, même casse-tête pour le vigneron Pierre-Étienne Seré à 20 kilomètres de là, dans le Bergeracois. Il inspecte aujourd'hui ses 18 hectares de vignes et vérifie que le palissage est suffisamment solide.
Pour ma part, une éolienne, ce serait à mon avis, à mon sens, plus intelligent que d'autres techniques, des fils chauffants ou des brûlots. Voilà. Car avec une éolienne, on lutte sur une zone assez étendue.
Ce système qui brasse l'air chaud et le fait redescendre a un coût, environ 40 000 euros. Les exploitants, souvent endettés, n'ont pas tous la capacité de s'équiper. Alice de Mascarel est élue à la Chambre d'agriculture de Dordogne. Cette maraîchère représente la Confédération paysanne.
Ça va aussi de pair avec la situation économique catastrophique auxquelles font face les paysans et les paysannes depuis des décennies. Les petits systèmes diversifiés qui ont plusieurs ateliers, un peu d'élevage, un peu de maraîchage, un peu de verger, elles vont pas pouvoir investir dans des systèmes comme ça. Et donc, ça va être du système D et qui va pas porter ses fruits en termes de protection si les gels sont trop intenses.
Dans le secteur agricole, les revenus ont baissé de 40% en 30 ans. Noémie Leweller, Bergerac, RFI.
Depuis l'ouverture des bourses ce matin, les marchés évoluent dans le rouge, moins 0,9% en début de séance à Paris. Les investisseurs craignent pour l'économie mondiale après l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane imposés au Canada et au Mexique, alors que pour les exportations chinoises, la surtaxe passe de 10 à 20%. Voilà, vos prochains rendez-vous avec l'information. 12h30, RFI Midi et 13h, le journal de la mi-journée.